Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et nous sommes contents de nous retrouver, je dirais en esprit, ce matin autour de la parole de Dieu. Et c'est le lien de l'esprit qui nous permet de nous accéder et ensemble, collectivement, en tant que assembler une partie du corps du Seigneur pour l'adorer, pour magnifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour, je peux dire, un peu spécial, c'est le jour de la Pentecôte. Et c'est pour cela que je vous ai envoyé un cantique qui me tient à cœur, parce que à l'honneur, sans l'offusquer, si je peux dire, le Saint-Esprit, parce que vous savez que le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Et pourtant, il est si efficace. Et dans le silence du cœur, il agit réellement. Mais ici, ce cantique brûle, le 271 que je vous ai envoyé. C'est une métaphore de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Flamme ardente dans mon cœur, brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Le refrain brûle encore, purifie. Saint-Esprit qui vit en moi, vois ma volonté se plier à la tienne par la foi. La première image qui me vient à l'esprit quand il s'agit de parler de brûler, c'est exactement le début de la vie chrétienne où nous devrions, à l'image de ces croyants en Éphèse, quand la parole de Dieu a progressé, beaucoup se sont convertis. Les gens qui étaient dans l'acte de magie, dans le spiritisme, ils ont brûlé tous les livres de magie pour couper le pont. Et nous avons besoin toujours de ce ministère du Saint-Esprit pour nous être consacrés à Dieu, de brûler ce qui est encore des liens qui traînent dans nos vies, qui nous empêche de glorifier le Seigneur. Donc ce cantique parle bien de cela, et j'espère en ce jour, c'est ce qui est une réalité maintenant pour vous. Et ce matin, comme je vous ai dit, donc c'est le jour de la Pentecôte, donc notre réflexion va être à propos en conséquence. Mais comme vous le savez, parler de Pentecôte nous amène à parler du Saint-Esprit. Et beaucoup de choses ont été dites sur le Saint-Esprit, en parlant de la personne du Saint-Esprit. On peut parler de la divinité du Saint-Esprit. On peut parler du baptême du Saint-Esprit. On peut parler du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et quoi encore? Beaucoup de choses. Mais sur ce qui est dit du Saint-Esprit, il faut qu'il soit clair dans notre esprit, mais qui est le Saint-Esprit? Il ne faut jamais penser et retenir au sujet du Saint-Esprit, comme certains le disent, j'ai senti, ça c'est le premier mot qui vous manque dans votre document, j'ai senti en moi une puissance, une joie, une paix que je ne peux pas décrire, ou une chaleur qui m'envoie ici, j'étais tellement bien. Ils réduisent le Saint-Esprit dans ces manifestations qu'ils ressentent émotionnellement. Est-ce que la présence du Saint-Esprit peut être discernée et reconnue par les sentiments physiques ou psychiques? J'en doute. Et la parole de Dieu est claire parce que Jésus disait, la chair et l'esprit ne sauraient pas se reconnaître, parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que nous ne pouvons pas par nos sens, ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir, ni toucher le Saint-Esprit. Et à ce sujet, Paul rajoute encore que l'homme animal, animal ici c'est le psyché, l'âme, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles lui sont folles Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2,14. Et d'autres disent encore au sujet du Saint-Esprit, et surtout ne pas penser ça, ni le retenir, que le Saint-Esprit c'est une réalité impersonnelle, hein, parce que nous voyons dans la Bible cette métaphore de l'eau, en parlant de lui, du vent, du feu, comme je viens de parler dans ce cantique 271, ce sont des métaphores. Comme Jésus disait, je suis le pain de vie, ce n'est pas à prendre littéralement qu'il devient le pain. Il en s'agit de même réalité ici. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas retenir. Il ne faut jamais penser comme cela au sujet du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons la Bible, l'enseignement de la Bible, il est clair que le Saint-Esprit est une personne. Ça, c'est ce qu'il faut compléter, une personne. Pourquoi? Parce que quand on collecte toutes les évidences, on peut voir, par exemple, en Actes 13, 2, que le Saint-Esprit, il parle, il dit « je ». Il possède une pensée. Comme il est dit en Actes 15, 28, il lui paraît bon au Saint-Esprit. Il a une connaissance. C'est vraiment une personne. Il a des sentiments. Il peut être attristé, Éphésiens 4, 30. Il a une volonté. Il empêche les hommes d'agir méchamment. Il distribue les dons spirituels selon sa volonté, 1 Corinthiens 12, 11. Ça, c'est le préambule pour ce message, pour clarifier et que nos pensées soient correctes sur ce qui concerne le Saint-Esprit, sa personne. Mais notre sujet ce matin n'est pas la personne du Saint-Esprit en lui-même. Mais nous allons nous concentrer ce matin sur le ministère du Saint-Esprit. Retenez bien, ce matin nous allons nous intéresser au ministère du Saint-Esprit. Mais quand on parle du ministère, c'est comme un petit enfant à qui on le demande « Où travaille ton papa ?» À la caserne. Caserne. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pompier. Et donc c'est un peu le même raisonnement que nous allons prendre maintenant. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? C'est son ministère qui nous intéresse. Et donc, ça nous amène à considérer, mais où travaille-t-il? Où exerce-t-il son ministère? Donc, premier point que nous allons voir par la suite, c'est la résidence où demeure le Saint-Esprit. Et pourquoi y faire? Comme nous avons dit, ce petit garçon, mais il est à la caserne, qu'est-ce qu'il fait les pompiers? Mais ça veut dire quoi les pompiers? Il va secourir les gens qui ont lors d'un accident. Il va éteindre le feu. Et donc ici, de la même manière, pourquoi le Saint-Esprit il réside là? C'est pour que nous puissions voir son travail en rapport avec le sacrifice des croyants. Ça c'est la première chose que nous allons voir. Et son travail en rapport avec le service des croyants. Donc, nous ne parlons pas de la personne du Saint-Esprit ce matin, mais de son ministère. Cela nous amène à considérer où est-ce qu'il demeure, là où il exerce son ministère, et puis qu'est-ce qu'il fait dans ce lieu où il réside. On va voir son travail en rapport avec le sacrifice des croyants et avec le service des croyants. C'est le plan pour notre message ce matin. Donc, sans tarder, nous allons regarder la demeure, ça c'est le grand 1 du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir le lieu où il habite, parce que selon la parole de Dieu, c'est là qu'il exerce son ministère aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Je vous invite à regarder 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je répète, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous, c'est qui? Et voilà, l'Esprit de Dieu habite ou fait sa demeure en vous. Le contexte de 1 Corinthiens 3 est clair. Il s'agit de l'assemblée locale ici à Corinthe. Donc, ce n'est pas comme l'habitude que nous avons et nous le savons, et c'est important de le rappeler, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, quand il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Ici, ce qui est en vue dans 1 Corinthiens 3,16, ce n'est pas le corps du croyant, mais ce qui est en vue, c'est l'assemblée du croyant. C'est là que le Saint-Esprit fait sa demeure. Et lié à ce demeure, il était cité le mot « temple de Dieu ». Le temple, ici, ce n'est pas celui qui désigne toute l'enceinte du bâtiment, le mot dont je parle ici, mais il décrit le lieu très saint. C'est le grec « naos », le lieu très saint, et ça nous fait penser au tabernacle. Et le lieu très saint, c'est le sanctuaire même de Dieu. Donc Dieu a une demeure particulière dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant ce que nous venons de dire? Ce n'est pas le local utilisé pour se réunir qui est le sanctuaire du Saint-Esprit ou le lieu de sa demeure, mais les croyants qui forment l'assemblée. Très important. Donc ce n'est pas le local utilisé pour se réunir qui est le sanctuaire du Saint-Esprit, mais les croyants qui forment l'assemblée et qui se réunissent dans un local. Vous savez, cette vérité est affirmée par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6,16. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6,16. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela implique que notre conduite soit digne du Dieu qui habite au milieu de nous. Puisque Dieu et aussi l'Esprit de Dieu est saint, nos vies doivent l'être aussi. Donc, nous venons de souligner la résidence dans la nouvelle alliance où demeure le Saint-Esprit, c'est dans l'assemblée des croyants qu'il fait sa demeure, selon 1 Corinthiens 3,16. Mais n'empêche que nous savons qu'il demeure dans chacun de nous, depuis notre nouvelle naissance. La question qui se pose maintenant, et ce qui nous amène à regarder la deuxième partie que je viens de vous dire dans le plan, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ce demeure qui est l'Assemblée? On a dit qu'il va exercer son ministère. Mais quel ministère? Nous allons voir le premier ministère qui se fait dans le temple, c'est l'adoration. Ici, le mot qui manque, c'est le Saint-Esprit et le sacrifice des croyants. J'entends par là l'adoration. Pourquoi? Parce que le temple servait dans l'Ancien Testament pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Et donc, le temple, c'est le lieu où Dieu habite, mais aussi l'endroit où Dieu est adoré par son peuple. Mais parlons de l'adoration du peuple de Dieu, il faut se rappeler comment cela se déroulait dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël a mené au temple les sacrifices, afin que les sacrificateurs les présentent à Dieu de la part du peuple. Les sacrificateurs sont les seules personnes admises à s'approcher de Dieu au nom du peuple. Et dans l'Ancien Testament, l'adoration est rendue possible grâce aux sacrificateurs qui appliquent les systèmes sacrificiels établis par Dieu que nous trouvons dans le livre de Lévitique en grande partie. Nous l'avons étudié dans les classes bibliques. Il faut remarquer que dans l'Ancien Testament, le culte est centré sur le tabernacle ou le temple. Quelque chose de visible et avec des rituels, comme nous venons de le souligner. Mais, rappelez-vous que dans le tabernacle et dans le temple de l'Ancien Testament, ce n'est pas tous les Israélites qui pouvaient fonctionner comme sacrificateurs à l'autel des sacrifices et dans le lieu saint. Et cette activité est interdite au roi de Chronique 26, 16 à 20. Seul Aaron et ses fils avaient ce droit. Dieu avait fait d'eux des sacrificateurs et avait donné à eux seuls l'exercice du sacerdoce. Et même, il est bien clarifié que la peine de mort reposait sur l'étranger qui osait s'approcher de l'autel et du sanctuaire. Nombre 18:7. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons conclure que le sacrificateur du Nouveau Testament sont ceux qui ont le droit de s'approcher de Dieu. ce sont ceux qui ont accès à la présence de Dieu. À la différence du culte de l'Ancien Testament, ils ne rendent plus le culte comme à la manière avec des rituels et des cérémonies. Ça, c'est le grand changement. Mais ils s'adressent à Dieu et par l'Esprit. C'est ce que nous allons voir par la suite. Mais parlons donc de l'acte d'adoration et le rôle de sacrificateur que nous le sommes dans ce ministère. Qui sont les sacrificateurs dans le Nouveau Testament? Nous avons dit que Aaron et ses fils seulement ont le droit de cet office. Mais dans le Nouveau Testament, il n'en est plus question. Mais qui sont alors les sacrificateurs du Nouveau Testament? La réponse est claire dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ce passage identifie pour nous les sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance. Il est clair que les sacrificateurs, selon ce passage, sont ceux qui, par la foi en Christ, ont été libérés. Ça, c'est le mot à compléter, de leurs péchés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Ils ont, ces croyants au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, selon Hébreux 19. Si les sacrificateurs dans le Nouveau Testament est identifié, mais quels sont leurs privilèges en étant dans cet office maintenant? C'est ce que nous allons regarder. Premièrement, ils ont le droit de s'approcher de Dieu. Comme je vous ai dit, et je le ressouligne, ce droit, actuellement dans le Nouveau Testament, n'est plus réservé à une classe particulière comme Aaron et ses fils, mais pour tous les croyants. Donc il est un grand privilège de tous, ça c'est le mot qu'il faut compléter, les enfants de Dieu sans exception. Le plus jeune, dans la foi comme les plus âgés, les sœurs aussi bien que les frères sont des sacrificateurs du Dieu vivant. Quelle merveille pour des créatures déchues comme nous de se tenir devant la présence d'un Dieu saint afin de l'adorer et le servir. Deuxième point sur votre document, comment les sacrificateurs peuvent-ils fonctionner? C'est par l'Esprit. Ça c'est le mot à compléter, qu'il nous est possible d'adorer Dieu, comme nous le rappelle les Philippiens 3, verset 3. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, stipulé noir sur blanc. Et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Le privilège rigide, dans le sens qu'il n'y a aucun don, ça c'est le point que vous avez à compléter, n'est nécessaire pour participer à l'adoration et à la prière au sein de l'Assemblée. Aucun don. Et nous allons voir plus tard, par contre, pour le service, il faut les dons qui viennent de Dieu. Oui, chaque enfant de Dieu possède le Saint-Esprit. Il peut adorer Dieu sur une base personnelle, car par lui, dit Paul, en parlant de Jésus, nous avons les uns, les autres individuellement, accès auprès du Père par un seul Esprit. Mais, remarquons cependant que dans l'Ancien Testament, le temple était le seul endroit où les fils d'Aaron pouvaient exercer leur sacerdoce comme sacrificateurs de l'Éternel. De même, en tant que peuple de Dieu, dans l'aspect collectif, l'assemblée locale est aussi le seul endroit où le sacerdoce de tous les croyants est exercé de façon collective. Et nous avons accès dans le sanctuaire du ciel par l'Esprit de Dieu. Vous dites, mais comment cela est possible? Nous sommes sur terre encore en tant que pèlerins et nous avons chaque fois que nous nous rassemblons autour de la personne de notre Seigneur, nous avons accès au sanctuaire du ciel, ce qui est réel. Pour le comprendre, tout simplement, Jésus était avec ses disciples, Jean 17. Il était sur terre, il priait, il a accès devant la présence de son Père. Je pense à Jean dans l'île de Patmos. Lui était emprisonné, il avait accès au trône de Dieu. Donc c'est une réalité pour nous aujourd'hui, et c'est un grand privilège. Quatrième point dans votre document aussi, le privilège, c'est notre lieu d'adoration. Donc c'est lieu qu'il faut compléter et le sanctuaire du ciel, comme je viens de le décrire, où nous entrons librement par l'esprit pour prier et adorer. Où les sacrificateurs peuvent-ils fonctionner? Nous sommes dans la partie Hébreux 13 maintenant, verset 10, verset 13, verset 15. Nous avons un autel, verset 10. Sortons donc, verset 13, pour aller à lui, soulignez ce mot, hors du camp en portant son opprobre. Et je saute au verset 15, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. J'aimerais juste attirer votre attention sur deux expressions dans le verset 13 et le verset 15. Verset 13, à lui. Et le verset 15, par lui. L'expression par lui nous enseigne que le Seigneur Jésus est notre autel. Pourquoi? Nous lisons bien, verset 15, nous offrons, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc il est l'autel. Pourquoi? Parce qu'il est celui par qui les sacrificateurs que nous sommes présentent l'offrande à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même a enseigné que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est donc lui qui rend nos sacrifices agréables et acceptables devant Dieu. Il est non seulement le seul moyen par lequel l'homme peut s'approcher de Dieu pour l'adorer, mais aussi le seul moyen par lequel Dieu peut accepter ce qui vient de l'homme. Ça, c'est ce qui a complété ce qui vient de l'homme. Et cela réjouit notre cœur. Merci Seigneur que nous avons un tel autel, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous pouvons tirer de l'expression « par lui », mais l'expression « à lui » indique la personne à qui nous nous identifions et autour de laquelle nous nous réunissons afin d'exercer avec d'autres croyants notre sacerdoce, notre rôle en tant que sacrifice, en tant que sacrificateur. Ce qu'il faut préciser, il ne s'agit pas d'aller à lui pour devenir sacrificateur, car nous le sommes déjà. Mais nous allons à lui parce que nous sommes des sacrificateurs. Et que c'est autour de lui seulement que nous pouvons exercer notre sacerdoce, comme je viens de le dire. Donc vous voyez les avantages que nous avons aujourd'hui dans l'ère de la grâce comme sacrificateurs. Le privilège inouï qui nous dépasse. Dieu a fait de nous ses sacrificateurs afin que nous lui offrons des victimes spirituelles qui lui sont agréables. Et le Nouveau Testament enseigne qu'il y a une variété de sacrifices qui sont agréables à Dieu. Rapidement, examinons-les maintenant. Donc il y a le sacrifice de notre personne. Ça c'est ce qu'il faut compléter, Romains 12:1. Donc, variété de sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu en tant que sacrificateur dans la maison de Dieu, là où réside le Saint-Esprit, le temple de Dieu, c'est le sacrifice de notre personne. Je vous exhorte donc, Romains 12:1, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Vous voyez le lien? L'adoration, le culte, le sacrifice, culte raisonnable. Ici, nous voyons, on peut déduire qu'un sacrifice doit nous coûter quelque chose. Sinon, je dirais, ce n'est pas un sacrifice. Ce qui est remarqué ici, c'est un sacrifice vivant, contrairement à ceux de l'Ancien Testament qui étaient morts avant d'être placés sur l'autel. N'est-ce pas? Le sacrifice mort est présenté une seule fois, tandis que celui qui est vivant est offert tous les jours. C'est un sacrifice continuel, tous les jours. C'est la vie de ceux qui ont bénéficié des compassions de Dieu qui est placée sur l'autel du sacrifice. Vous voyez, je vous exhorte, donc l'exhortation est possible pour ceux qui, par les compassions de Dieu, ils doivent l'offrir parce qu'ils étaient au bénéfice des compassions de Dieu. Le but, c'est pas de redécrire tout l'épître romain hein, les chapitres 1 à 11, mais j'aimerais juste vous donner le contexte donc de cette exhortation des compassions de Dieu. Quelles sont les preuves de la compassion de Dieu? Je pense au grand pardon de Dieu pour des pécheurs, Romains chapitre 4. Je pense à la justification pour des pécheurs coupables, Romains 3 à partir du verset 24. Je pense à la rédemption pour des esclaves du péché que nous sommes, Romains 5, 12 à 20. Je pense à la réconciliation pour des ennemis de Dieu que nous étions. Et cette libération où le croyant peut vivre au-dessus de sa nature pécheresse et échapper au contrôle du péché, Romains 8. Chers frères et sœurs, comment pourrions-nous rester indifférents devant tout ce que Dieu a fait pour nous? Par le sacrifice suprême de son glorieux Fils. Je ne sais pas pour vous, mais cela doit nous toucher au plus profond de nous-mêmes et devrait stimuler le croyant à se donner sans réserve à son Dieu. Notre vie doit être cédée à Dieu pour son plaisir et pour sa gloire. Et comme je l'ai souligné déjà précédemment, cet acte d'adoration n'est pas réservé à certains croyants seulement, mais il devrait être la part de tous les croyants. C'est là le culte raisonnable de tous les sacrificateurs que nous sommes. Chers frères et sœurs, j'espère que c'est déjà une réalité dans votre vie au quotidien. Sinon, il n'est jamais trop tard pour le faire. Un tel culte, de notre part, touche le cœur de Dieu. C'est pour son plaisir. Qu'est-ce que nous pouvons offrir en tant que sacrificateurs? Dans le temple de Dieu où réside le Saint-Esprit, le sacrifice de louange. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. Hébreux 13, 15. Par lui, l'autel que nous venons de dire, notre Seigneur, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il est question dans ce verset d'un sacrifice de louange qui consiste du fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il s'agit de parler à Dieu de son Fils, non de nous-mêmes. Ce sont des paroles d'action de grâce à propos des glorieuses beautés de la personne de notre Seigneur qui est parfaite, ainsi que la valeur de son sacrifice pour expier nos péchés. De telles louanges sont appelées le fruit des lèvres. Vous le savez que le fruit est ce qui pousse sur un arbre bien nourri et cultivé, et je ajouterai arrosé. Et souvent sa croissance requiert du temps. Je le vois même pour mon épouse ici avec des arbres fruitiers nains, comme les mandariniers, le citronnier. Il faut prendre, il faut attendre, il faut arroser, il faut travailler pour que ça porte du fruit. Donc, cela nous indique comment pouvons-nous parler à Dieu de son Fils avec des cœurs qui débordent de reconnaissance, d'une manière intelligente, sans avoir d'abord passé du temps dans la Sainte Parole, afin de méditer sur lui. Oui, c'est important. C'est important. La louange découle d'un cœur qui est débordé, d'une personne qui a été en présence de la personne de Dieu. C'est comme Moïse, quand il était descendu du mont Sinaï, rayonnant. J'imaginais, c'est pas écrit, mais il parlait. Parce qu'il était rempli de la connaissance de l'Éternel. N'oublions dans ce passage des Hébreux 13, 15, par l'expression donc sans cesse, nous comprenons que cela devrait être la pratique habituelle pour le croyant sacrificateur. C'est pas une activité occasionnelle que je fais lundi, après le reste de la semaine je fais ce que j'ai envie, et dimanche, je recommence. Hein? Mon sacrifice de louange, ce n'est pas ainsi. Vous savez encore, il est plus facile d'offrir de tels sacrifices de louange quand tout va bien. Mais qu'arrive-t-il quand les choses vont mal? Vous savez, l'auteur, les destinataires de l'Épître aux Hébreux, hein, c'était des chrétiens qui ont souffert énormément. Il y en a ceux qui ont perdu même leur bien. Et c'est à eux que s'adresse cette exhortation. Est-ce que les circonstances de ma vie privent Dieu du sacrifice de mes louanges? Et vous savez, c'est parfois les croyants les plus éprouvés que Dieu reçoit le plus d'adoration de leur part. Et qu'en est-il ainsi de chacun d'entre nous? Oui, que Dieu puisse toucher nos cœurs afin que le parfum de nos louanges monte continuellement devant lui et non pas occasionnellement. Et cela en commençant déjà dans nos foyers et dans l'assemblée. Qu'est-ce que nous pouvons offrir en tant que sacrificateurs? Le sacrifice de libéralité. Hébreux 13, 16, le verset 16. Et le lien, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices. Vous voyez, le mot sacrifice revient sans cesse. Le sacrifice qui est associé au service du sacrificateur. Ici, l'auteur présente un autre côté de notre rôle de prêtre, ou notre sacerdoce. Dans le verset 15 que nous venons de dire tout à l'heure, nous avons vu ce qui était offert à Dieu seul. Alors que le verset 16 nous parle des choses qui sont faites pour Dieu, mais dont les hommes sont les bénéficiaires. Très important. C'est les choses qui ont été faites pour Dieu, mais dont les hommes sont bénéficiaires. Le don de la libéralité. Ici, permettez-moi de souligner l'importance ici de ce qu'on appelle le principe d'inclusion. Qu'est-ce que cela? La Bible est remplie de ce principe d'inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que je fais pour Dieu, ça passe à travers les autres. Exemple, rappelez-vous de Jésus, en Jean 14, 15, nous lisons, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, nous voyons un principe d'inclusion. Ça veut dire quoi? C'est que l'amour pour Dieu doit passer par l'amour pour sa parole. Si vous m'aimez, Jésus parle, gardez mes commandements. Là, c'est un principe d'inclusion. Un autre exemple. Jésus disait, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et un peu plus tard, il dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le service pour Dieu passe à travers le service pour les autres. Et ça, c'est très important de comprendre. Et il en s'agit ici, l'application du sacrifice de la libéralité. Il dit, au verset 16, il commence par « N'oubliez pas !» Cela nous montre que nous sommes enclins à oublier seulement, non seulement de faire le bien, de partager nos biens, mais aussi d'oublier la valeur que Dieu attache à de tels gestes. Chers frères et sœurs, comme sacrificateurs, nous pouvons aider les autres croyants. Et parfois nous le faisons même pour les non-croyants. Soit par un service rendu, soit par l'utilisation de nos foyers, de nos voitures, de nos finances. Là c'est le principe de l'inclusion. Ce que je fais pour Dieu passe à travers ce que Dieu me donne, que ce soit mon foyer, les biens qu'il me donne pour faire du bien aux autres. C'est pour Dieu. Il est merveilleux de voir ainsi combien nous sommes participants dans l'Assemblée, dans ce privilège d'être un sacrificateur pour Dieu. Et dans le domaine de la libéralité, permettez-moi de le dire, c'était l'expérience que j'avais eue quand j'étais étudiante, grâce au bon conseil de notre pasteur à l'époque. Il disait, vous êtes étudiant, vous avez que des bourses, mais n'attendez pas que vous ayez une situation confortable pour commencer à donner. Vous ne le ferez plus. Il avait raison. Tout à fait raison. Et je vous conseille la même chose pour les jeunes aujourd'hui. Ne commencez pas et ne raisonnez pas que quand j'aurai quelque chose, j'aurai une belle situation, je donnerai. Avec le peu que vous avez, vous pouvez commencer à donner. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le don, mais c'est vous-même qui donne. Et c'est pour cela, nous encourageons, en tant qu'ancien de l'Église avec Michael et moi-même, d'encourager l'Église aussi, non pas seulement l'aspect personnel, mais aussi collectif dans l'Assemblée pour soutenir des missionnaires, pour soutenir des pasteurs. Et vous savez ce qui est bien clarifié dans la parole de Dieu, quand vous pensez à l'apôtre Paul qui a reçu des dons de l'église de Philippe, hein, les dons que les chrétiens de Philippe, qui étaient pour Paul, a été décrit en Philippiens 4, 18, comme un parfum de bonne odeur. Et voyez encore, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous voyez, ce don avait tout d'abord été donné au Seigneur. Vous voyez encore le principe d'inclusion, mais il était adressé à Paul. Pour Dieu, mais passe par Paul. C'est pour cela que l'Assemblée, dans son aspect, donc, comme je vous ai dit, encourage le peuple de Dieu à des soutiens pour les missionnaires. Quel merveilleux privilège d'être dans l'Assemblée et d'expérimenter les riches bénédictions d'exercer cet aspect de notre sacrificature dans le domaine de la libéralité. Que Dieu nous aide à voir cette chose comme lui et pour lui. Et quel honneur, mais aussi quelle responsabilité pour chacun d'entre nous et pour l'Assemblée d'y participer avec joie. Il est écrit qu'il faut se rappeler du parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas la mentalité du monde. Ça, c'est le principe du gouvernement du royaume de Dieu. C'est beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque nous pensons au sanctuaire de Dieu dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas ignorer les services attachés au sanctuaire lui-même, n'est-ce pas? Donc nous avons parlé de sacrifice du croyant dans l'Assemblée, le lieu de résidence du Saint-Esprit, où il agit. Et maintenant, deuxième aspect de ministère du Saint-Esprit dans l'Assemblée en faveur des croyants, mais ça touche maintenant l'aspect de son service. C'est ce que nous voyons dans le grand 3 maintenant, le Saint-Esprit et le service des croyants. Vous voyez, dans le sanctuaire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le lieu où les Lévites servaient. Ça, c'est ce qu'il faut compléter, servaient. Ces hommes étaient affectés à toutes sortes de tâches qui contribuaient au bon fonctionnement du temple de Dieu ou du tabernacle quand ils étaient dans le désert. Et donc, ils nous font penser à tous les services, ce qu'il faut compléter ici, nécessaires au fonctionnement et à l'édification de l'assemblée locale. Parlons du service que les croyants peuvent faire en tant que membres de l'Assemblée. Je vous invite à regarder deux passages. Philippiens 2, versets 15 et 17 et Romains 15, 16 pour méditer sur le service important qui relève de notre responsabilité en tant que membre dans l'Assemblée du Seigneur. Romains 15, 16, nous lisons, c'est Paul qui parle, « M'acquittons du divin service, souligné divin service, de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Et Philippiens 2, 15, 17, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, verset 16, portant la parole de vie. Et au verset 17, je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Quel est le dénominateur commun de ces deux passages? Si vous l'avez devant vos yeux, parce que j'ai noté les références dans la note que je vous ai fait joindre, le dénominateur commun de ces passages, d'abord il ressort l'évangile. Vous le remarquez au Romains 15, 16, divin service de l'évangile de Dieu. Et nous voyons la même chose dans Philippiens, hein, portant la parole de vie. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui parle de Jésus. Et la parole de vie parle de Jésus. Comme nous lisons dans 1 Jean 1.1, ce qui était des recommencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc c'est la personne de notre Seigneur qui est le sujet de l'évangile. Ça, c'est le premier dénominateur commun, l'évangile. Deuxième dénominateur commun, c'est le vocabulaire tiré du rituel du culte juif de l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué les mots offrande? Romains 15, 16. Avez-vous remarqué le mot sanctifié? Rappelez-vous, quand on a étudié Lévitique, c'est le mot-clé, hein, un des mots-clés du livre de Lévitique, saint, sanctifié. Et cela rappelle la pureté exigée des victimes qu'on offre à l'autel et que le sacrificateur offre à la place de ceux qui l'apportent. Vous voyez le mot aussi, libation, ça relève de ce rituel lévitique pour les sacrifices. Il y a le mot sacrifice lui-même. Ça, c'est le dénominateur commun dans les deux passages. Et je vois encore le mot service dans les deux passages. À ma surprise, je croyais comme l'habitude, le mot qui est utilisé pour service, pensons à ce doulos en grec ou diakonos, que Paul utilise énormément dans ses épîtres. Mais à ma surprise, c'est pas diakonos ni doulos le mot ici, mais c'est un autre mot, leiturgos. Vous savez, très intéressant, parce que ce mot pour décrire le service dont Paul fait référence en parlant de l'évangile. Ce mot, son sens est celui qui assume une fonction publique. Celui qui assume une fonction publique. Ce qui veut dire que l'évangile, aux yeux de Paul, est d'utilité publique. Celui ou celle qui proclame l'évangile exerce une fonction publique. Donc il vise l'intérêt avant tout du public auquel il s'adresse. Je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que dans notre époque, en tout cas ici en France, le ministère de l'Évangile n'est pas reconnu d'utilité publique. N'empêche que c'est important. Je me rappelle de ce que disait un serviteur de Dieu. Quand on lui questionnait, mais pourquoi vous faites ça? Il travaille, fait des camps chrétiens. Pourquoi vous le faites? Le frère humblement disait, nous participons aussi pour l'éducation des jeunes de France, l'éducation spirituelle, à ce qui seront des jeunes et des adultes plus tard qui répondent à Dieu et qui vivent dans la crainte de Dieu. La personne qui lui posait la question ridiculisait. Et oui, le monde ne le voit pas ainsi. Mais chers frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous devrions voir l'évangile, c'est important, et la proclamation de l'évangile est un ministère d'utilité publique, parce qu'il vise les âmes tout autour de nous. Et ça, c'est très important de le souligner. Et c'est une motivation, je dirais, pour nous aussi. Et Paul, quand il utilise les termes tirés du rituel du culte juif de l'Ancien Testament, je vous fais un rappel avec ce qu'on a vu étudier en Lévitique, pourquoi il le fait? C'est très intéressant dans ces deux passages, quand il parle du ministère de l'Évangile, il fait le lien avec des vocabulaires du rituel du culte juif de l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Parce que Paul veut démontrer que son ministère de prédicateur de l'Évangile vise le même but que les sacrifices de l'Ancien Testament. Une petite révision de ce que nous avons vu dans Lévitique. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, le prêtre ou sacrificateur, quand il offrait le sacrifice, c'était dans quel but? C'était pour restaurer la relation entre Dieu et son peuple qui ont été brisés par le péché. Vous voyez? C'est l'adoration qui est visée, mais le problème du péché bloque de nous approcher de Dieu. Et donc, le sacrifice était là pour restaurer les relations entre Dieu et son peuple, qui a été brisé par le péché. Vous voyez? Et maintenant, dans la nouvelle alliance que Dieu a instituée en Christ, l'évangile annoncé par Paul a pour but également la réconciliation du pécheur avec Dieu. Donc vous voyez le lien entre l'image du rituel et son ministère, il y a un lien. Parce que vous n'oubliez pas dans Exode 19, 5 et 6, Dieu avait en vue que son peuple forme un royaume de sacrificateurs. Mais comme cette demande, ordre, était accompagné d'une obéissance, le peuple ne l'avait pas fait. C'est pour cela que Dieu était obligé que le sacrificature passe par Aaron et ses fils. Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voulais transmettre. Le ministère de l'Évangile, dans son but, est la même fonction que ce que était le rôle du sacrifice offert dans l'Ancien Testament. Pour le but, c'était la relation entre Dieu et le peuple qui était rompue, brisée par le péché. Et la même chose, l'Évangile est proclamé pour les pécheurs que nous sommes, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, le Dieu trois fois saint. Donc c'est très important. Et en Philippiens 2, versets 15 et 16, nous voyons la responsabilité du ministre de l'Évangile. Vous avez dans votre document, les croyants sont lumière. Ça c'est à compléter, Éphésiens 5, 8. Parce qu'ils portent au-devant d'eux la parole de vie, qui est leur flambeau. Et cette expression, en déclarant, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est intéressant dans le grec que Paul utilise ici le métaphore qui parle du flambeau. Le flambeau, c'est un luminaire, c'est-à-dire un corps brillant céleste. Une étoile, si vous voulez, qui brille. Et Paul l'utilise pour illustrer l'image d'un croyant qui est là pour éclairer de tout ce qui est dans les ténèbres de ce monde. Imaginez, vous êtes dans une campagne où le ciel est dégagé, dans une nuit noire, noire. Vous levez les yeux, pas de pollution nocturne, vous voyez l'étoile. Plus il fait noir, plus la petite étoile brille. C'est un peu le rôle qui est visé ici dans notre responsabilité en tant que ministre de l'Évangile. Pour amener les hommes vers la lumière qui est Jésus-Christ. Dans le milieu des ténèbres, levez les yeux, vous voyez l'étoile qui brille. C'est l'image de notre Seigneur. Et nous sommes là aussi comme cette lumière pour apporter les personnes à connaître la bonne nouvelle de l'Évangile qui parle de Jésus-Christ. Brillons-nous comme des flambeaux dans le monde? C'est ce que Paul attendait des Philippiens. C'est également ce que Christ attend de nous, n'est-ce pas? Mais je vois également dans ce ministère de l'Évangile, en Philippiens 2:17, le coût à payer pour ce ministère. Paul utilise le vocabulaire sacrificiel en parlant du sacrifice de lui-même. Éventuellement jusqu'au martyr. C'est le coût qu'il est prêt à payer. Paul était prêt à sacrifier sa propre vie, c'est ce qu'il faut compléter, pour l'Évangile et la foi des croyants. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire par l'expression « même si je sers de libation » dit Paul, « et qu'il me soit donné d'être répandu en libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi. » Là encore, c'est un petit rappel de ce que nous avons vu en Lévitique. Rappelez-vous lors des sacrifices quotidiens, à cette époque-là, si vous étiez un juif, dans ces contrées-là, un juif pieux, donc il s'est passé que matin et soir, on offrait l'holocauste. C'était un agneau d'un an sans tache et sans défaut. Et il faut l'accompagner d'offrandes de céréales, et aussi d'une libation de vin ou d'huile. Et cette libation était répandue sur le sacrifice ou à côté. Et rappelez-vous, cette libation était ajoutée en dernier lieu et complétait le sacrifice. Je vous fais référence à Nombre 28, versets 3 à 8, à ce sujet. Qu'est-ce que Paul utilise de cette image de l'Holocauste qui est accompagné d'offrandes et de libations? Il dit, la vie spirituelle de l'église de Philippe est considérée aux yeux de Paul comme une offrande à Dieu. Et il s'imagine, s'il reste une chose à accomplir pour que cette offrande soit acceptable parfaitement à Dieu, il disait, Paul était prêt à ce que le sacrifice de sa propre vie devienne cette chose. Et cela, non pas pour son propre compte, mais au compte des chrétiens de Philippe. Chers frères et sœurs, humblement, nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts à sacrifier notre zone de confort? Notre temps, notre énergie pour le bien spirituel de nos frères et sœurs. En Romains 15-16, pour terminer, on voit l'équipement pour le ministère de l'Évangile. Le ministère de Paul illustre l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est à compléter dans l'évangélisation. Il dit, m'acquittant du divin service, de l'Évangile de Dieu, ainsi que les païens soient une offrande, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Paul affirme que les païens constituent l'offrande qu'il donne à Dieu, non pas grâce à son éloquence, ni à sa sagesse, ni à son érudition, mais il l'attribue à l'action du Saint-Esprit. Vous l'avez remarqué, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Oui, dans le ministère du Saint-Esprit, dans l'Église, important aussi le service de l'Évangile, nous voyons l'action du Saint-Esprit. Et ça nous fait rappeler, n'est-ce pas, de ce que Jésus disait en Jean 16, 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je voudrais m'arrêter là. En ce jour, nous mémorons le jour de la Pentecôte, naissance de l'Église. Nous devons être reconnaissants du ministère du Saint-Esprit. Et il exerce ce ministère dans nos propres vies d'abord, là où il fait sa demeure, de manière personnelle pour nous, mais aussi dans l'assemblée, quand nous sommes rassemblés pour l'adoration de notre Dieu, dans le lieu de culte. Et ces lieux, le Saint-Esprit fait sa demeure. Et qu'est-ce qu'il y fait? Nous venons de voir son travail en rapport avec le sacrifice. Son travail en rapport avec le service. Oh, cela nous donne de nous réjouir de voir que sans lui, nous ne pouvons rien. Et merci continuellement de l'Esprit de Dieu qui nous convainc nous-mêmes de péché, qui convainc les autres quand nous proclamons ce ministère d'utilité publique comme j'ai décrivé tout à l'heure. Il y a un autre côté. C'est lui qui agira dans le cœur de ceux qui entendent la parole du Seigneur. Louons Dieu et que nous puissions nous mémorer de ces ministères actuels, présents, réels, souvent pas visibles, avec pas beaucoup de bruit, parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais réellement profondes, qui changent toute une vie. Gloire à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur vous garde. Et à bientôt. Dieu voulant. Au revoir.